Je crois qu'on était déjà dans un moment d'offrande spéciale, hein, avec ces louanges qu'on a fait monter vers notre Père. C'est aussi un signe de générosité, un signe de répondre à son appel. J'ai été beaucoup frappé par ces paroles-là qui nous disaient « T'as pas entendu qu'on crie vers toi, mais c'est toi qui nous as appelés le premier. T'as pas attendu qu'on fasse je sais pas tout quoi vers toi, mais c'est toi qui nous donnes différentes choses. » Et je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là que j'aimerais vous partager ce que j'ai sur le cœur ce matin pour ce thème de la générosité. C'est que, premièrement, on sait qu'on n'a pas d'abord crié, mais c'est d'abord lui qui nous a appelés. On n'a pas d'abord offert, mais c'est lui qui nous a offert. On peut vraiment se mettre dans cet esprit-là, puis dans cette direction-là, à la suite de la louange pour aborder ce que c'est la générosité pour nous. En Suisse, les personnes qui nous entourent, nos concitoyennes, nos concitoyens, nous, on donne à des œuvres caritatives 1,8 milliard par année. J'ai écouté ça à la radio, peut-être vous avez écouté la même émission que moi, l'émission Tribu. 1,8 milliard, impressionnant comme chiffre, hein, ce qui représente à peu près 480 francs par personne, par ménage, sur l'année 2015. Et puis, on peut toujours un peu se glorifier parce qu'on est parmi les plus générés du monde si on se compare en international. Alors, il y a beaucoup de facteurs explicatifs. Ce n'est pas mon but pour moi ce matin. Et puis, à la FRAT, on avait un budget de 280 000 francs. On tablait sur 280 000 francs de dons à peu près pour cette année. Ce qui représente, vous le voyez, 1650 francs par membre par année. J'ai compté sur 170 membres à peu près, ce qu'on est. C'est carrément le triple de la moyenne suisse. Et ce, juste en ce qui concerne la FRAT, puis je ne sais pas tout ce que vous donnez encore ailleurs. C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant. Et puis, la première chose que j'ai envie de vous dire, et puis je suis bien placé pour le dire, parce qu'on est directement bénéficiaire avec ma famille, Nathalie aussi, qui est là, c'est un immense merci, puis vous exprimez d'abord ma reconnaissance pour votre générosité qui est là. Moi qui suis devant vous ce matin, je suis tout à fait conscient qu'on part de haut, voire de très haut en ce qui concerne votre générosité et notre générosité. On n'est pas au ras des pâquerettes, de loin pas. On part déjà de très haut et c'est juste magnifique de s'en rendre compte. On ne va pas se le cacher. C'est assez intéressant de causer avec, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, mais avec des amis avec qui je pense qu'on a quand même une bonne relation de confiance. Puis on aborde ces sujets de combien on donne par mois. Parce qu'ils ont toujours une petite idée que les chrétiens ils doivent donner beaucoup, puis que c'est un peu sectaire comme truc. Alors moi, j'aime bien aborder ces questions-là. Et puis quand je leur dis ce qu'on donne par mois, ils sont souvent complètement étonnés que ça vienne comme ça naturellement, puis que ce soit sur le cœur. J'ai encore eu une discussion dernièrement avec des amis, et puis on comparait nos budgets, puis voilà, on nous disait, nous, ben, dans notre budget, on met tant pour les dons dans l'église, des œuvres caritatives. Ils n'en revenaient juste pas. Puis pourtant, ils avaient une bien plus grande maison que moi, deux voitures, enfin, et tout et tout. Donc, ce n'était pas une question de moyens, c'est une question de choix. On fait le choix, en toute liberté, en toute conscience, d'aller dans cet élan de générosité, parce qu'on en est convaincu, parce que, comme on l'a chanté, on a été bénéficiaire, premièrement, de cette générosité incalculable de Dieu. Pour la fraternelle, et puisqu'il concerne cette année 2016, à fin octobre, on a déjà reçu 210 000 francs. Et ce qui nous manque encore, on est en retard, parce qu'on est toujours un petit retard à cette période-là de l'année, 8 700 francs pour arriver à notre budget. Et puis, si je calcule nouveau par personne, ça fait 411 francs depuis fin octobre jusqu'à la fin de l'année si on veut finir l'année à zéro. Mais ma question, maintenant que vous avez toutes les informations, c'est de savoir, est-ce que la générosité, on est dans une prédication, pas dans une réunion d'église, est-ce que la générosité est qu'une question de chiffres? Et je vais commencer par la réponse rassurante. Non. Avec ce texte biblique, assis en face du tronc, Jésus, dans Marc 12, Laurent, dans Marc 12, versets 41 à 44. Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. Intéressant, Jésus, il est attentif à cela. Qui l'eût cru? Je vous mets la pression. de nombreux riches mettaient beaucoup. Il y avait une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit : En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui y mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors on le voit bien avec ce texte biblique, c'est évident, la générosité va bien au-delà des chiffres. Parce que si on s'était contenté des chiffres de cette veuve, ces quelques centimes, ça servirait absolument à rien, c'est peut-être le 0,0001% du budget. Et pourtant, elle a fait preuve d'une générosité qui nous inspire encore 2000 ans après. En termes comptables, puis ça c'est ma première formation, je suis gestionnaire, économiste, ça ne vaudrait rien du tout. En tant que théologien, ça vaut énormément ce qu'elle a fait. On n'est pas dans les mêmes économies, on n'est pas dans les mêmes calculs. C'est un aspect de cette générosité qui est un élan du cœur complètement irrationnel, parce que l'élan du cœur de cette veuve, il est complètement irrationnel. Le texte nous dit qu'elle a pris sur sa misère pour donner plus loin, pour donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'en son âme et conscience, elle a certainement décidé clairement d'aller dans cette direction-là. C'est quelque chose d'irrationnel et de noble à la fois. Il y a quelque chose de noble dans cette générosité, dans cet élan, parce que justement, il manque quelque chose de calcul et de rationnel. C'est d'ailleurs une des définitions de la générosité, c'est même la première définition de la générosité, c'est un élan noble. Il y a une certaine noblesse qu'on pourrait aussi appeler du panache ou bien quelque chose qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a une forme d'élan supplémentaire. Quand il y a un cycliste, par exemple, qui gagne une étape du Tour de France au haut du Mont Ventoux, puis qu'il le fait avec panache, on dit qu'il était généreux dans l'effort. Il est allé au-delà de ses forces, au-delà de ses limites. Et c'est la première définition de la générosité, c'est d'aller au-delà de nos forces, de nos limites, pour accrocher quelque chose, parce qu'on y croyait, parce qu'on l'avait dans les tripes, parce qu'on l'avait dans le ventre. C'est un acte qui va au-delà. Et un acte qui va au-delà, ça ne peut que être un acte libre. Si on est contraint de faire quelque chose, c'est impossible de donner tout son cœur à ce qu'on fait. Impossible. C'est impossible d'être généreux si on est contraint. Je ne peux pas obliger quelqu'un à être généreux. C'est un peu le genre d'injonction paradoxale. C'est soit libre ou bien soit généreux. C'est le genre d'ordre qui est difficile d'entendre et difficile de recevoir. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ce même texte que nous venons de lire, il nous parle clairement et distinctement de chiffres. Donc la générosité, et même pour Jésus, la générosité, ce sont aussi des chiffres. Jésus met en avant le comportement financier de cette veuve. Et Jésus regarde ce que les gens mettent dans le tronc. Et puis peut-être ça nous dérange un peu, parce que là, je vous ai dit que l'économiste, il regardait les chiffres, le théologien, il regardait la générosité gratuite. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans la Bible et dans l'Évangile, on n'a pas peur, et Jésus n'a pas peur, de nos réalités toutes humaines. Et puis l'argent, c'est une de nos réalités toutes humaines, toutes concrètes et toutes quotidiennes, et Jésus s'en occupe. On n'est pas à rêver ou dans d'autres sphères que spirituelles. Jésus s'occupe de ces réalités-là et l'argent en fait pleinement partie. C'est très intéressant de voir que cet exemple de la veuve qui met dans le tronc, il est pris dans un contexte un peu plus large, où Jésus nous parle de la piété. Et vous savez ce que c'est la piété ? C'est la manière de montrer l'attachement à Dieu. Savoir si on est attaché de manière fervente ou pas. Savoir si on a quelque chose pour le Seigneur ou pas. Et Jésus prend cet exemple de l'argent. Donc, peut-être que vous êtes dit, en pensant que d'abord c'était que le nom, la générosité va bien au-delà, il y a une forme de confort. On se dit, ah, ça nous libère, il y a quelque chose d'autre, ça ouvre vers l'extérieur. Et en même temps, Jésus nous dit à travers ce texte que la générosité, ça prend aussi des teintes toutes concrètes, toutes réelles. L'argent et le fait de partager sont ces éléments concrets et réels. Pour Jésus, je pense qu'il considère qu'il est facile de parler d'attachement, de fidélité, sans que cela ne se traduise par des actes concrets et pratiques. Il attend, et c'est pour ça qu'il met en avant l'exemple de cette veuve, une petite parmi les petits, il attend ces actes concrets de générosité de notre part. Et avec cette vision de la générosité qui concerne aussi les chiffres, on retrouve un peu de ce que nous disait cette émission de la RTS, mais on retrouve aussi notre réalité de vie d'église et de vie de communauté. On est aussi pris avec ces chiffres. Ainsi, le culte, puis là je cite quelqu'un, et l'offrande vécue dans le culte ne renvoient pas à une réalité évanescente ou exclusivement intérieure, individuelle ou que spirituelle. Cette offrande, elle a une dimension concrète et sociale. En cela, elle se veut, cette offrande, le reflet du christianisme tout entier, qui est à la fois religion de l'esprit, Dieu est esprit, nous dit l'évangile de Jean, et la religion de l'amour, de l'incarnation. On ne peut pas être que dans un monde ou que dans un autre, on est vraiment appelé à vivre les deux de concert, les deux main dans la main. Et l'offrande est une manière de le faire et de le vivre concrètement. La deuxième réflexion que je vous laisse, c'est que l'offrande et la générosité, c'est un muscle à entraîner, un muscle à exercer, un peu comme ces salles de sport. C'est très à la mode actuellement de faire du fitness, surtout que l'hiver a commencé, donc vous pouvez aller vous enfermer sous les néons. Car dans le domaine de la générosité, d'après moi, jamais rien n'est acquis. C'est un muscle à entraîner. Et puis, on peut l'entraîner de deux manières différentes. Soit par l'habitude de donner régulièrement, puis c'est ce qu'on fait chaque dimanche. Ils vous font rire, hein, c'est... Soit avec des événements exceptionnels, comme ce dimanche, où c'est un moment d'offrande spéciale. Et puis, j'ai retenu un élément, au moins un, de ce que tu nous as partagé l'année passée, Laurent, où tu nous disais que lors des événements exceptionnels, et notamment par rapport à l'argent, on pouvait profiter de cette occasion pour tailler dans le gras. Alors là, ça marche bien, nous, avec l'image, parce qu'ils n'en ont plus beaucoup. Mais on peut tailler dans une partie qui nous fait mal pour justement aller au-delà de notre superflu. Puis ça, on ne peut pas le faire quotidiennement, parce que sinon, ça serait très doloriste, on serait dans une mauvaise habitude. Mais par contre, de temps en temps, on peut se dire quel est mon rapport à l'argent. Et puis, est-ce que j'ose tailler dans le gras pour dire à cet argent, tu n'as pas le dessus sur ma vie? Et une manière de dire, tu n'as pas le dessus sur ma vie, c'est une fois, de temps en temps, tailler dans le gras, puis tailler au-delà de notre superflu pour donner plus loin, que ce soit à la frate, que ce soit ailleurs. Ce qui compte, c'est l'élan du don, c'est l'élan de s'ouvrir ailleurs. Et puis là, il y a un texte qui nous parle de nouveau de cette réalité-là, que je trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 58, où il nous a dit « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille ? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Et devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors, la lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra, tu le hèleras, et tu diras, il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à la famille ta propre bouchée, et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme à midi. » C'est très intéressant parce que, comme dans le texte de la veuve, on voit que le prophète Ésaïe mélange à dessein ces deux aspects de spiritualité, comme le jeûne, avec des actes concrets de notre réalité sociale. Il mélange de nouveau l'adoration, le lien à Dieu, ce côté spirituel, et ce côté tout concret de partager son pain avec l'affamé, de couvrir celui qui est nu, d'aller aider celui qui est en train de ploire. De nouveau, on a ces deux aspects qui se marient et qui évoluent main dans la main. C'est notre réalité de la foi chrétienne, il n'y en a point d'autre. Ces deux aspects, c'est un peu ce qu'on peut vivre ce matin. C'est un peu ce qu'on va vivre dans une phase pratique maintenant, où on peut offrir selon ce que Dieu a mis sur notre cœur, les biens qui nous sont confiés. On peut décider en toute âme et conscience de redonner une partie dans un acte de générosité. C'est jamais acquis. Une vie d'église, malheureusement, on n'a pas des budgets qui roulent et puis qu'on peut se dire, voilà, pour les 10 prochaines années, ça va durer. On est chaque fois en train de remettre l'ouvrage sur le métier. On est chaque fois en train de faire confiance parce qu'on ne peut que marcher par la confiance en sachant que Dieu est devant nous. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine financier. On était hier à l'Assemblée de la Générale de la FRE. On est exactement dans la même logique où chaque année, on remet en jeu l'année suivante en ne sachant pas exactement et avec certitude ce qui va se passer, mais en comptant avec confiance sur Dieu et sur les uns et les autres pour faire marcher et faire vivre notre Église, nos Églises, et faire avancer le royaume. Et pour cela, on a besoin de reprendre cette expression, de pouvoir dénouer certains liens, de pouvoir détacher certaines courroies qui peut-être nous enferment, nous emprisonnent, et exercer ce muscle. Alors que nous puissions, dans un même élan, dans un même élan de cœur, nous inspirant de cette veuve, nous inspirant de ce texte d'Ésaïe, vivre ce temps en toute quiétude, dans la paix, pour les besoins qui sont les nôtres cette année encore, peut-être un peu même pour l'année prochaine. Vous savez qu'il y a une grosse année qui nous attend, puisqu'on a prévu quelques petites retouches sur ce bâtiment. Il y a aussi des projets qui sont en cours, il y a différentes choses qui sont là, les besoins sont là, puis je crois qu'on est dans une phase dynamique où on a besoin de cette vigueur pour les porter. Alors je laisse la place à Laurent qui va me rejoindre et qui va diriger ce moment. Je ne veux pas être jugé parti. Et puis qu'on puisse le vivre vraiment dans cet élan-là. Amen.